L'aime. L'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission, le magazine qui vous fait entendre le Finistère sur Transistor, alias la station radio de la transition. Il en est question dans cet entretien aujourd'hui, en partenariat avec l'UBO, l'Université de Bretagne Occidentale, pourvoyeuse infinie de sujets passionnants sur le monde, comme il évolue forcément. Parmi les nombreux secteurs qui vont devoir changer de visage, qui change déjà peut-être de visage pour tenir compte du changement climatique, pour essayer d'en éviter les effets, pour faire face aussi à des ressources limitées, on en prend conscience en tout cas. La fac crée aussi de nouvelles formations, de nouveaux départements. Et aujourd'hui, notre invité va nous présenter la chaire Transition portuaire et maritime, au pluriel. C'est Éric Foulquier qui est venu nous la présenter, il est géographe, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une chaire? Il paraît qu'il en existe plusieurs sortes, mais en tout cas celle-ci.
Oui, alors les plus connus évidemment sont les chaires d'excellence qu'on va trouver essentiellement dans les universités parisiennes qui visent à appuyer financièrement des secteurs de recherche de pointe. Bon. Et puis il y a les chaires partenariales, c'est le cas de la nôtre, qui vont effectivement financer des recherches spécifiques sur des domaines via des mécénats de fonds privés qui peuvent être des institutions ou des entreprises. Voilà, ce qui est notre cas, en fait, puisque c'est un collectif, en fait, à la fois d'institutions et d'entreprises qui financent une partie de ces recherches qu'on a décidé de mener à travers cette chaire partenariale sur les transitions portuaires et maritimes.
Donc, c'est des recherches, mais c'est aussi des cours, c'est ça, concrètement, des stages pour les étudiants
Oui, c'est ça. Il y a trois volets dans la chaire partenariale et dans toutes les chaires partenariales en France. On n'est pas la seule, hein, on est la seule et la première. Et on est
sur ce sujet.
Sur ce sujet.
Vous pouvez.
Mais il y en a d'autres sur la gouvernance, sur les relations internationales, sur les énergies fossiles, à Pau notamment. Oui. Des actions de recherche, évidemment, des actions de formation et des actions aussi de médiation. Ce qui est important, puisqu'effectivement, l'idée, c'est aussi de porter à connaissance, de faire du lien entre des secteurs d'activité, des connaissances scientifiques et puis les citoyens qui peuvent s'informer, puisqu'on aura l'occasion d'en parler. Dans les milieux industriels, souvent, il y a des questions d'acceptabilité et donc mieux comprendre ce que font les industriels, c'est intéressant et ça participe aussi de l'attractivité de ces secteurs qui souffrent parfois d'une image, d'une méconnaissance des métiers et les ports sont assez méconnus en fait dans leur fonctionnement, dans les enjeux qu'ils représentent.
Même dans le Finistère où on a
même
quelques ports.
Même dans le Finistère.
Et notamment Brest. Et pour nous donner une idée de la portée de la chaire, quels sont les partenaires qui sont impliqués
Alors les partenaires, pour commencer par les institutionnels, la région Bretagne est un partenaire très très fort. Évidemment, la région Bretagne est propriétaire des six ports commerciaux.
On parle essentiellement des ports commerciaux.
Des ports de commerce, puisque les ports de pêche et les ports de plaisance ont d'autres problématiques avec d'autres complexités que je ne maîtrise pas. Voilà.
Et on ne parlera pas non plus des ports militaires.
Enfin, et on ne parlera pas des militaires non plus. Ouais. Les ports de commerce. Donc, la région Bretagne a construit une stratégie régionale portuaire. C'est une région qui présente, par rapport aux autres régions françaises, une grande densité de ce point de vue-là. Et donc, évidemment, qui met en place des politiques, des moyens financiers pour effectivement faire de ces ports des leviers économiques de développement qui s'adressent à l'emploi, qui s'adressent aussi aux services, aux territoires, etc. Donc il y a Roscoff, Saint-Malo, Brest évidemment, Lorient, et puis il y a Vannes également, et Le Léguet aussi qui sont... Voilà. Alors Vannes...
Le Léguet, c'est Saint-Brieuc.
Vannes et Roscoff sont essentiellement sur du passager, Vannes sur de l'intéril et Roscoff sur des liaisons transmanche. Et puis ensuite, les autres sont sur des trafics industriels, du vrac, du sable, du soja, de la marchandise. Alors la spécificité de la région Bretagne, et ça aussi c'est un point assez important à souligner, c'est que ce sont des ports donc décentralisés, donc qui appartiennent à la région, qui sont confiés à des exploitants par la région. Et Brest est le seul port décentralisé en France qui dispose de conteneurs. Et donc ça, c'est aussi une grande spécificité des ports décentralisés français, c'est-à-dire que le seul qui manipule les conteneurs, souvent on voit le port...
Sinon c'est les ports d'État, les gros ports.
Voilà, souvent on voit les ports par le conteneur, hein, et quand on parle d'une image du transport maritime à la télévision, qu'est-ce qu'on voit?
Ah,
c'est
oui,
un
les
transport
conteneurs,
de
bien
conteneurs,
sûr.
Voilà, oui. Alors que c'est pas forcément la plus grande part des trafics du monde, puisque la plupart des grands trafics dans le monde, c'est l'énergie.
Et donc, c'est les tuyaux plutôt?
Alors, bah, c'est plutôt le vrac, hein, ce qu'on appelle le vrac ouais. liquide et les vracs secs. C'est-à-dire, le vrac liquide, c'est le gaz et le pétrole. Et les vracs secs, c'est les grands vracs miniers, le fer, la bauxite, les grains, le charbon.
Mais eux, ils sont acheminés par tuyaux. Enfin, ils sont transvasés par tuyaux, non? Ces vracs,
ah, non, ils sont transportés par bateau.
Oui, mais après, quand ils arrivent au port?
Alors après, oui, évidemment, ouais. Il y a des tuyaux qui vont les envoyer vers des zones de stockage et puis ensuite des camions qui vont les emmener vers les utilisateurs, vous, moi, ouais. Les pompes à essence, les choses comme ça.
Enfin, ils ne sont pas dans des conteneurs, en tout cas. Quoi.
Alors, ils ne sont pas dans des conteneurs.
Les vracs,
non.
D'accord.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que Brest est le seul port décentralisé à manipuler des conteneurs. 25 000 boîtes, ce n'est pas beaucoup, mais c'est un trafic qui perdure, qui est là et qui appelle tout un tas de métiers, des spécificités et que les autres ports n'ont pas. Même Sète, même Calais. Calais, c'est essentiellement de la remorque routière. Calais, Sète, il y a un petit peu de tout, mais il n'y a pas de conteneurs.
Donc la chaire Transition portuaire et maritime est d'envergure régionale, même si elle est née à Brest, enfin elle est pilotée depuis Brest, hein, c'est ça. Donc la région Bretagne, c'est le principal partenaire, et puis qui d'autre après?
Alors oui, on finit sur les partenaires. La CCI du Finistère, qui gère le port de Roscoff. Mmh. On a la métropole de Brest qui s'est également engagée, puisque dans la chaire, il y a aussi des questions de rapport à la ville, entre le port et la ville, donc il y a des questions comme ça. Et puis ensuite, on a des groupes industriels, enfin entrepreneuriaux, on va dire, puisque tous les entrepreneurs qui ont signé ce contrat de mécénat ne sont pas des industriels. Il y a la Brittany Ferries, qui est une compagnie maritime. Il y a la Maritime Kuhn, qui est un groupe de manutention, un opérateur portuaire. Donc qui gère par exemple les dockers de Brest, on aura peut-être l'occasion d'en reparler aussi. Equans, qui est la filiale énergie de Bouygues, qui s'intéresse notamment aux questions de décarbonation et à amener comment on amène du courant sur des bateaux, quoi, sur des ports et puis ensuite sur des bateaux, qui est une problématique assez complexe.
Comment on les fait fonctionner à l'électrique, quoi,
c'est-à-dire
en gros.
Non, comment on approvisionne le bateau en électricité. C'est-à-dire que l'idée maintenant, quand on décarbone les escales, hein, c'est-à-dire d'éviter que le navire utilise ses moteurs au fioul lors de son escale, eh bien, il faut amener du courant pour remplacer ça, pour alimenter encore le navire. Et donc comment on amène de l'énergie sur un port, comment on connecte effectivement le navire, c'est assez compliqué.
Ouais, finalement, c'est pas juste une prise de courant qui dépasse.
C'est pas juste une prise de courant.
C'est pas comme pour une voiture.
Non, surtout que les navires ne sont pas du tout homogènes. Mmh. On a une grande diversité dans les systèmes électriques, dans les navires, en termes de voltage et d'ampérage. Et donc, il faut s'adapter. C'est assez complexe. Ce n'est pas si simple que ça. Ça paraît simple comme idée. Mmh. Mais techniquement, ça demande de l'ingénierie et pour laquelle il n'y a pas forcément toutes les réponses aujourd'hui d'un point de vue technique.
Donc les entreprises, vous avez fait le tour un peu des partenaires des mécènes. Peut-être que vous ne pouvez pas nous donner.
Il y a les ports aussi, hein, oui. le Brest Port évidemment, oui. Qui soutient la chaire.
Donc l'exploitant du port de Brest.
L'exploitant du port de Brest. Il y a l'exploitant du port de Saint-Malo, qui est un groupe qui s'appelle EDIS, qui est un groupe privé, qui gère des infrastructures, notamment des aéroports et des ports maintenant. Et puis j'espère que j'oublie personne.
Donc ça, c'est les mécènes privés. Et puis vous avez les facs, enfin les... Les labos de recherche.
Excusez-moi, si j'oublie Guyot Environnement.
Ah oui, aussi.
Voilà, qui est encore un autre profil, puisque lui, c'est un usager des ports. Donc, il apporte pas spécifiquement des fonctions portuaires, mais il nourrit des trafics. Et donc, voilà, c'est un usager, un chargeur, puisqu'il voit des marchandises sur bateau.
À recycler, en fait, c'est ça. Hein, c'est son travail, recyclage.
Il collecte, il recycle, et ensuite il trie, et ensuite il réexpédie, il réexporte. D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, parce que. En général, les ports français sont très déficitaires entre l'import et l'export. On importe plus que ce qu'on exporte. Eh bien, à Guyot, lui, il exporte, puisqu'en fait, on envoie des métaux, notamment, vers des usines qui vont les refondre et qui vont nous revenir ensuite sous forme de machines à laver, de choses comme ça.
Ça transite par la mer essentiellement. Et les disciplines scientifiques, alors représentées dans la chaire Transition portuaire et maritime, donc vous êtes géographe, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Il y a à peu près toutes les disciplines, des juristes, des géographes, des écologues, des biologistes. On a un groupe de travail qui va se réunir la semaine prochaine sur la question d'écologie portuaire. C'est un domaine qui est très très peu renseigné en fait par la littérature scientifique actuellement, parce que les ports sont fermé hein, depuis les attentats de 2001, mais même avant, hein, depuis les attentats de 2001 aux États-Unis, en fait, il y a une nouvelle norme internationale qui oblige les ports en fait, à contrôler les entrées et les sorties sur leur périmètre. Et donc, les ports se sont fermés hein, derrière des grilles. Et donc, ils ne sont plus accessibles, effectivement. Donc, du coup, des recherches qui appellent des prélèvements in situ, c'est compliqué parce qu'il faut mettre des partenariats en place. Et l'ACHER espère apporter ça, c'est-à-dire faire des ports, des espaces ouverts
aux scientifiques,
enfin ce qu'on appelle des ports laboratoires, des espaces laboratoires. Et donc ça, c'est une des grandes ambitions de la recherche. Donc il y a tous les champs de l'écologie, enfin on espère, hein, y compris de la chimie, parce que l'idée aussi, c'est peut-être regarder des compositions chimiques hein, des eaux portuaires, comment elles évoluent dans le temps, est-ce qu'elles présentent des spécificités par rapport à d'autres eaux, d'autres milieux, littoraux notamment. Ouais. Et puis il y a tout un tas de questions qui se posent aussi sur les questions de la biodiversité dans les espaces portuaires. Souvent, on a tendance à considérer que ce sont des espaces industriels qui sont morts et qui sont complètement fermés à l'écologie. Or, ben, ce n'est pas forcément prouvé. Et il faut mener des recherches pour voir comment les ports peuvent constituent ou ne constituent pas des corridors, des espaces un peu spécifiques du point de vue de la biodiversité. Donc, il y a plein de questions qui se posent dans les sciences de la nature et du vivant. Et donc, qui vont accompagner ce travail de la chaire à côté des juristes, des économistes, des géographes, voire des anthropologues. Et puis, il y a des sociologues aussi qui travaillent avec nous de manière assez intense depuis le début, puisqu'il y a plein de questions qui se posent sur l'emploi portuaire, comment la transition écologique va affecter les métiers, les gestes du quotidien. C'est des sujets qui nous intéressent. Et puis surtout, là, on est en train de lancer toute une réflexion et on espère avoir des financements sur la question de la féminisation du travail portuaire. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut établir un lien entre transition écologique, question environnementale et féminisation ?
Parce que, de fait, les ports se sont féminisés.
Alors, les ports se féminisent, effectivement. Maintenant, il y a une femme pilote, par exemple, à Brest. Hein, donc, les pilotes, c'est ceux qui amènent les navires dans le port. Cette manœuvre-là n'est pas pilotée par le capitaine, mais par un spécialiste et qui connaît très bien le port, ce qu'on appelle les pilotes. Donc, il y a une société de pilotage dans tous les ports du monde. Hein. C'est comme ça. Donc, à Brest aussi, on a une femme pilote. Donc, il y a des femmes, effectivement, dans les navires. Hein. Maintenant, ça commence c'est assez, assez connu. Mais il y a des femmes aussi dans les bureaux, dans les parties administratives. Il y en a sans doute un petit peu partout. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est qu'effectivement, il faudrait renseigner cette question parce qu'on n'en a pas une vision très, très précise. On sait que le phénomène existe, mais on ne sait pas comment il se déroule, quels sont les facteurs qui président à cette féminisation et quels sont les
impacts.
Les impacts, c'est-à-dire oui, parce que souvent on associe, je vais mettre les pieds dans le plat peut-être.
Allez-y.
dans les études sociologiques sur ces processus de féminisation, souvent c'est associé à des questions de paupérisation des métiers. Dans un certain nombre de métiers, les femmes occupent des places qui sont faiblement rémunérées.
Temps partiel,
etc. Et donc, ça peut être intéressant de regarder ça, si effectivement cette féminisation des métiers portuaires s'associe aussi à une paupérisation ou pas. Est-ce que les ports présentent des spécificités de ce point de vue-là ou est-ce qu'ils s'inscrivent sur ces tendances lourdes sur lesquelles on essaye de lutter, mais que ce n'est pas toujours facile?
Et si le fait d'avoir plus de femmes accélère la transition aussi, puisque c'est quand même le sujet.
C'est pas tellement ça la question. Voilà, l'hypothèse qu'on a, non, parce que effectivement, on imagine, enfin, on pourrait pas partir du postulat que les femmes sont plus sensibles à l'environnement que les hommes. Enfin,
bon. Oui, mais
sauf que c'est vrai qu'au ministère de l'environnement, souvent on met des femmes. Hein.
Ce que j'ai constaté.
Et donc nous, on aimerait par exemple vérifier ça, si effectivement les femmes occupent de façon privilégiée les secteurs, les services qui s'occupent d'environnement. Et puis c'est surtout ces questions de si effectivement, du fait qu'elles s'occupent de l'environnement, elles sont reléguées dans des postes qui ne sont pas au cœur de la décision stratégique. Or, c'est un problème puisque l'environnement doit devenir effectivement dans les années à venir une question très très stratégique.
Voilà, et elle est dans l'intitulé de la chaire, transition portuaire et maritime. Alors, transition au pluriel, c'est-à-dire transition écologique, peut-être pas seulement, sociale, comme vous dites, hein, c'est assez vaste. Enfin, comment vous avez quand même défini votre sujet? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ça? C'est parce que ça se posait, j'imagine.
C'est pas nouveau, hein, la question des transitions dans les ports, puisque les ports s'adaptent en permanence. Hein. Ce sont des industries de services. Hein. Les ports ne sont pas autonomes. Ils répondent à des services, à une demande. Et cette demande, elle évolue. Hein. Il y a 40 ans, le conteneur n'existait pas. Le conteneur est arrivé. Les ports ont créé des outils, des espaces dédiés à ces conteneurs. Donc, les ports sont en mutation permanente. Aujourd'hui, l'environnement accélère ce processus de mutation, contraint énormément les ports. Et donc, la décarbonation, l'écologisation des activités d'une manière générale va obliger les ports à organiser leur métier de façon très, très différente, à contrôler leurs impacts, à maîtriser ces impacts, à les éliminer un tant soit peu. Et ils sont maître un petit peu d'une partie de cette décarbonation, enfin de cette écologisation, mais il y a quand même une grande partie de cette écologisation qui leur échappe, puisque ils accueillent des navires et ils n'ont pas la main sur le choix stratégique qu'aura été fait en termes d'écologisation sur ce navire, qui appartient au propriétaire du navire, qu'est l'armateur. Oui. Et c'est pareil pour les camions routiers, et c'est pareil pour le consommateur. Les ports ne pilotent pas le désir d'achat du consommateur, puisque au final, les ports servent aux consommateurs. Il ne faut pas l'oublier. Mmh. C'est-à-dire, ce qui fabrique les ports, c'est nos consommations.
Oui, si on veut des produits Temu ou je ne sais quelle marque, voilà, c'est... Eux, ils ne vont pas dire, bah non, on n'accueille plus des bateaux qui transportent de la marchandise chinoise bas de gamme.
Exactement. C'est ça, ouais, c'est pas exactement. Eux qui... c'est quand même... les ports répondent à ces besoins de consommation et ce sont les consommations des sociétés du monde qui fabriquent le transport maritime et le fait portuaire.
Et donc l'intéressant pour cette, votre chaire, c'est que ces petits ports, entre guillemets, enfin, qui ne sont pas des gros ports internationaux, ne sont pas étudiés, c'est ça ? Enfin, très peu
Alors oui, effectivement, il y a d'abord la communauté des gens qui travaillent sur les espaces portuaires en France, elle est très très étroite. Hein. On rassemble à peu près 20, on va dire une vingtaine de spécialistes considérés ou, enfin, comme tels, dont les ports sont le cœur de métier. Après, si on élargit un petit peu à ceux qui travaillent sur les ports de manière occasionnelle ou qui travaillent d'autres sujets en se servant des espaces portuaires, mais qui sont souvent des ports de plaisance ou voire des ports de pêche qui sont des espaces plus ouverts, je pense notamment aux écologues, là, on arrive à une cinquantaine de personnes. Mmh. Donc, c'est quand même une communauté assez restreinte hein, en termes de production scientifique. Et alors, quand on regarde la littérature à l'échelle mondiale sur les ports, il y a très très peu de choses sur les petits ports. On parle beaucoup des grands ports, puisque quand on parle des ports, on parle de la mondialisation, et donc on parle de phénomènes macroéconomiques, et donc on va s'intéresser à des grands ports, Singapour, les ports chinois, Rotterdam, Anvers, et ces équilibres. Alors, il y a toujours des sujets, puisqu'en fait, comme je vous l'ai dit, ces ports sont en mutation permanente, donc il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des jeux d'acteurs qui font que la donne a changé, et qu'il faut réétudier, et qu'il faut revoir un petit peu ces évolutions. Mais les petits ports, eux, sont rarement analysés. On considère souvent que comme il y a très très peu de trafic, il n'y a pas d'intérêt, sauf qu'il y a quand même des trafics, il y a quand même des milliers d'emplois qui sont en jeu, et ils rendent des services, et ils font partie d'un maillage. Et l'idée de travailler aussi sur ces ports décentralisés, c'est aussi d'analyser quelle en est la spécificité, hein, d'une part, de mieux comprendre leur fonctionnement, leurs problématiques, et surtout d'essayer de comprendre quel rôle, et en tout cas d'avancer, le rôle qu'ils pourraient jouer dans ces questions de transition environnementale. Parce que nous, on est convaincus que ces ports, bien sûr, les grands ports maritimes sont en marche du point de vue de leur écologisation. Enfin, voilà, ils commencent à s'en occuper un petit peu quand même. Ils sont de toute façon contraints par
bien
la loi.
Bien obligés, voilà.
Ils sont bien obligés de le faire. Mmh. Et bien les ports décentralisés ont aussi leur part à prendre. Et ça va être plus compliqué dans les ports décentralisés puisque les moyens qu'on leur accorde sont moindres. Leurs marges de manœuvre sont souvent moindres également. Il y a moins d'espace, il y a moins de foncier. Alors même si Brest a encore la chance d'avoir du foncier disponible et donc a quand même des marges pour faire son pilotage stratégique. Mais la plupart des autres n'ont pas de marge foncière. Donc cette transition écologique, elle va être intéressante à observer dans ces petits ports qui, eux, sont vraiment contraints. Ont des fortes contraintes. Quoi.
Ouais. Et ils ne sont pas menacés quand même, les petits ports, par une concentration qui concerne beaucoup de secteurs, donc pourquoi pas le portuaire ?
Non, moi je n'ai pas le sentiment qu'ils soient menacés, vraiment. Je dirais que c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les grands ports qui sont menacés, puisque certains grands ports maritimes fondent leur modèle économique beaucoup sur le conteneur. Or, le conteneur, il est particulièrement volatile et il a tendance à se polariser sur un petit nombre de ports. C'est sa logique. Et donc, des ports moyens, je pense notamment à Bordeaux, à La Rochelle, à Saint-Nazaire, enfin, à Nantes-Saint-Nazaire.
C'est les ports moyens, oui, en France.
Les ports moyens, voilà. Ouais. Vis-à-vis du conteneur, peuvent être en difficulté. Donc, eux ont des questions aussi qui se posent, qui sont spécifiques à leur positionnement dans la hiérarchie portuaire européenne. Et donc, les ports décentralisés, Ils ont souvent des trafics captifs liés à des industries qui sont positionnées localement, qui ont besoin d'un accès bord-à-quai à proximité. Je dirais que, de toute façon, c'est un peu le même cas que pour tous les autres ports. C'est-à-dire qu'ils sont dépendants de leur arrière-pays, c'est-à-dire des clients qu'ils ont. Et donc, si l'économie en arrière du pays, du port se porte bien, si on a des nouveaux acteurs, ce qu'on appelle des faiseurs, enfin des chargeurs qui apportent de la marchandise, eh bien, le port se porte bien. La difficulté d'un port, c'est de finalement de fidéliser ses clients et d'être attractif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend les volumes, si on raisonne en volume de la région Bretagne, on est proche des 40 millions de tonnes d'échanges, un port-export, avec les autres régions du monde. Si on prend la Bretagne. Bon, il y a les ports bretons.
Je ne me rends pas compte, mais c'est pas beaucoup, quoi. C'est ça?
Non, c'est à peu près normal par rapport au profil économique de la région. Sauf que les ports bretons, c'est à peine 10 millions de tonnes. Donc ça veut dire qu'il y a 30 millions de tonnes qui échappent en fait au fait portuaire et qui partent par la route. Or, la première région partenaire de la Bretagne, en termes de commerce extérieur, c'est la Belgique.
Eh oui.
Donc c'est le port de Anvers. Parce que souvent on dit le premier port français, c'est Anvers.
C'est Anvers, oui, c'est vrai, on le dit.
Et donc ça génère du camion sur les routes. Et donc quand on raisonne en termes de décarbonation, il ne faut pas regarder que sur le port, il faut regarder l'ensemble de l'écosystème et effectivement travailler ces arrière-pays, convaincre les chargeurs de passer par Brest plutôt que par Le Havre, c'est tout un travail du quotidien, etc. Et donc quand on parle de danger et de menaces qui pèsent sur les ports, elle est commerciale. D'abord commerciale, ce sont des établissements commerciaux, il faut le rappeler quand même, ce sont des entreprises.
Mais ils ont un atout, en termes, puisqu'on parle de décarbonation, c'est les énergies marines renouvelables. Ils sont aux premières loges, là c'est l'inverse. D'ailleurs, Brest a sa plateforme EMR. Enfin, est-ce qu'ils peuvent s'en sortir par là, les petits ports, en étant un tremplin vers la production d'énergies marines renouvelables?
Tous les secteurs sont bons à prendre. Pour un port, ça fait des trafics, et les énergies marines renouvelables font partie de ces trafics du futur. Quelle va être leur trajectoire? Est-ce que ça va être un trafic stable? Ou est-ce qu'une fois que les plateformes seront construites, il n'y aura plus de trafic? Ça, ce sont des questions qui se posent, évidemment.
Il y aura toujours de l'entretien, quand même.
Il y aura toujours de l'entretien, de la maintenance. Mais je dirais qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Et évidemment, ce n'est pas du tout la stratégie d'un port comme Brest. C'est au contraire d'aller chercher de multiples leviers de développement pour équilibrer, en fait, ces trafics, afin d'organiser sa résilience de demain.
C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs.
Bien sûr, oui. Si un port trafique deux marchandises, le jour où il y a une des marchandises qui se casse la figure parce que l'usine ferme, parce que plus personne ne consomme de ça ou pour autre raison, évidemment, il est tout de suite en difficulté. C'est-à-dire qu'il faut regarder ce qu'on appelle le modèle économique du port, sur quoi finalement le port se rémunère. Plus on a un trafic qui est varié, plus on est résilient.
Robuste, même, comme dirait un de vos collègues.
Robuste.
La robustesse. Vous parliez de problèmes d'emploi, d'attractivité d'emploi. Bon, là, c'est grand port comme petit port, j'imagine. Ils ont du mal à attirer, c'est ça? Les métiers ne sont pas séduisants?
Ils ont du mal à attirer parce que les métiers ne sont peut-être pas séduisants. Je ne sais pas.
Alors, c'est une image.
C'est une image, oui. C'est une image qu'on en a. Je pense qu'ils sont surtout méconnus, ces métiers. Et la question ensuite, c'est aller vivre sur du littoral, c'est pas forcément facile. Il faut que le salaire, évidemment, soit en adéquation avec le niveau de vie de l'environnement dans lequel on va se situer.
Et parce que l'immobilier est cher.
L'immobilier est cher, je veux dire, aujourd'hui, se loger à Lorient, alors à Roscoff peut-être moins, mais à Lorient, à Brest, à Saint-Malo, c'est pas forcément simple. Et donc, il faut des salaires en adéquation. Donc, cette question de l'attractivité, elle est très complexe, parce que je pense qu'elle se joue à la fois sur les prix de l'immobilier, sur ses relations, le port dans son milieu d'insertion géographique. Elle se joue sur la méconnaissance des métiers. Elle se joue sur l'image de ces métiers. Et elle se joue aussi sur les formations. C'est-à-dire que si, dans les formations du supérieur, on ne propose pas finalement des enseignements sur ces questions portuaires, bien évidemment les étudiants vont pas se douter que dans ces espaces il y a des emplois possibles, des carrières possibles. Et c'est vrai que quand on interroge même les gens qui sont actuellement en poste dans ces entreprises portuaires, on va dire, en général, Bien souvent, on s'aperçoit que les gens ont découvert ça par hasard.
Ah oui,
et donc
ça.
C'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'au départ, ils n'étaient pas du tout destinés à travailler dans un port, et c'est de façon très très fortuite qu'ils se sont dit « Ah bah tiens, il y a un poste, je vais postuler, ou on vient les chercher ». Et donc voilà, donc cette question de l'attractivité, elle est complexe. On sait aujourd'hui que la plupart de ces entreprises ont des difficultés de recrutement, par contre, il faut les analyser pour essayer de les résoudre. Et donc ça, c'est un des objectifs de la chaire, c'est-à-dire de travailler sur le pourquoi du comment de ce déficit d'attractivité des ports. Ce qui n'est pas une réponse, à mon avis, qui est toute faite.
Ah bah non. Et un sujet corrélé dont on n'a pas le temps de développer, mais vous reviendrez, sur le numérique, enfin l'automatisation, en fait, qui concerne plus les gros ports, mais bon...
Ça fait partie de cette question effectivement de l'attractivité, c'est-à-dire que dans un contexte où il est difficile de recruter, du coup le robot, l'intelligence artificielle, la machine devient une solution. Alors c'est vrai que souvent on associe ces questions d'automatisation à de la perte d'emploi, mais évidemment dans les ports, quand on n'arrive pas à recruter, ça peut être au contraire une solution. Et puis c'est aussi des outils qui sont intéressants en termes de qualité de travail, c'est-à-dire que c'est aussi des... On va attribuer à ces machines des tâches qui ne sont pas forcément très, très valorisantes. Et donc, ça peut être aussi un point positif du point de vue des carrières qui sont développées dans ces espaces portuaires, dans la mesure où on peut... Et il y a des réflexions qui sont menées actuellement, confiées à des intelligences artificielles, des tâches qui sont très répétitives, pas très valorisantes, et pour lesquelles, effectivement, les niveaux de rémunération, de toute façon, ne seront pas exceptionnels et avec des perspectives de carrière assez faibles.
Et ce sera peut-être le sujet d'un prochain Café du Port qu'organisera cette chaire de transition portuaire et maritime. Merci beaucoup, Eric Foulquier.
Merci à vous.
Et on suivra ça de très près, en tout cas, sur Transistor. À bientôt.